Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de Cinématoque, une émission consacrée aujourd'hui eh bien, au Festival de Cannes, une émission que j'ai appelée Yes You Cannes, et oui, parce que on peut aller à Cannes quand on est chômeur, fauché, et même quand on est cinéphile, parce qu'il ne faut pas croire que Cannes c'est que le glamour. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es mon invité exclusif pour une heure de débrief sur Cannes. Alors, toi, tu as commencé Cannes 2 jours avant le festival et tu as terminé le jour même, c'est ça? Tu es parti le jour de la remise des prix?
Ouais, c'est ça. Ouais. Faut pas pousser hein, sur le chômeur, fauché, c'est ça?
Non,
c'est
oui, je veux volonté. Dire que je, oui, mais je veux dire que tu ne t'es pas fait rincer à Cannes, tu ne t'es pas invité à Cannes, tu as tout payé tout seul. Et ça veut dire qu'on peut, avec un bon système des merdes, on peut aller à Cannes juste pour le plaisir de voir des films, même si on porte pas une robe de soirée, des talons aiguilles et si on se fait pas défrayer, voilà. On peut se débrouiller.
Et si on n'a pas que des converses?
Et voilà. Donc tout ça, on va l'évoquer ensemble. Alors déjà, raconte-moi, c'était ta première année, deuxième, troisième. Est-ce que tu as l'habitude d'aller à Cannes? Pourquoi Cannes?
Pourquoi Cannes? Parce que j'avais la possibilité, grâce à une accréditation, d'y aller. Donc
il y a un jeu déjà d'aller choper une accréditation, parce que toi, tu ne travailles pas dans une salle de cinéma actuellement. Tu n'es pas directeur de salle,
Je ne suis rien.
Tu n'es rien, et tu as quand même réussi à attraper l'accréditation, le sacré Graal. Alors, comment on fait?
Alors, est-ce qu'il faut que je donne les remerciements? Non,
non, mais juste peut-être des petits plans, quoi, comme ça, pour savoir que toutes les salles n'utilisent pas leur accréditation.
Voilà, c'est ça. Et donc, en faisant la demande, on a la possibilité de... D'y accéder.
Ouais, en demandant gentiment, s'il vous plaît, merci.
S'il vous plaît, merci. Ouais. En remerciant chaleureusement par la suite. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai retrouvé mon bénévole de Villefranche-de-Lauragais à Cinébord, salle pour laquelle j'ai travaillé il y a de cela 10 ans, que j'avais motivé justement à demander cette accréditation, qui est valable donc pour toutes les salles. Chose qu'il avait faite, et depuis 10 ans, en fait, il se promène à Cannes tous les ans, il prend 15 jours de vacances, et je suis très heureux de voir, il s'est complètement acclimaté, il est devenu photographe pour Cannes, photographe personnel, car il n'exploite pas ses photos, contrario d'autres qui pourraient vendre
photos, tout ce qui peut être selfie, vendu, autographe,
signature. Voilà. Et ouais, j'étais très content de le retrouver. D'ailleurs, face à mon couchage, qui était une tente donc dans une cour en béton. Bon, je pensais arriver quand même sur de l'herbe, mais c'était du béton. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il habitait juste en face. Donc c'était une très agréable
surprise, découverte. Voilà. Donc en fait, toi, tu pars à Cannes avec ta tente. Tu penses louer un petit bout de jardin, parce que ça se loue même, une cour pavée à Cannes.
Et oui, tout se loue.
Tout se loue. Mmh. Et tu arrives, tu te rends compte donc que c'est une cour, que tu vas dormir là pendant 10 jours.
J'étais parti pour quelques jours. Et l'idée, c'était, je resterai tant que je tiendrai. Donc, j'ai mis à disposition tous les éléments pour pouvoir tenir. Que ce soit alimentaire ou...
En mode survie à Cannes, un peu.
Petit peu, ouais.
Ouais. Mmh. Tu m'as raconté que très vite, quand même, tu es allé acheter des boules quies parce que ta cour, elle était en plus à l'angle d'une rue. Enfin, c'était une maison dans une rue.
Mmh. C'était
passante.
Oui, bon, c'est anecdotique, mais effectivement, quand on dort pas, c'est un peu problématique quand on voit 5 films par jour, 4 ou 5 films. C'est un peu dur de rester dormir dans des salles climatisées toute la journée en faisant du hard metal, comme dans le film de Bruno Dumont.
Là, tu évoques Jeannette de Bruno Dumont. Et alors, tu m'as dit, très vite, il faut se droguer, quoi. Et toi, ta drogue, c'était...
La mélatonine.
La mélatonine. C'est naturelle. Une drogue légale. Et puis, il y avait...
Ça m'a sauvé.
Il y avait une autre drogue, tu vois. On va juste écouter ce petit son.
What else? What else?
Alors, qu'est-ce que c'est? What else?
What else?
C'est le café, tu te rappelles ?
C'est ça, l'espresso.
Tu m'as dit que entre les séances, alors toi tu mangeais pas beaucoup, tu t'étais ton budget c'était un sandwich par jour. Mm-hmm. Mais par contre, café Nespresso à volonté offert donc par la grande société, par ces humanistes que sont Nespresso. Et Georges et compagnie. Alors là, c'est Dujardin qui essaye d'imiter, bien entendu pour la pub, toujours pareil. Et tu m'as dit café à volonté. Et le soir, un petit peu d'herbe, d'herbe de qu'est-ce que tu m'as dit que tu prenais pour dormir, de la
mélatonine.
Voilà. Et puis des boules caisses, et voilà. Donc 3-4 heures de sommeil par nuit et 5-6 films par jour. Et
disons 4 films de moyenne, étant donné la durée des queues qui pouvait aller jusqu'à 2 heures ou 2 heures et demie. Alors, j'étais très étonné quand même de voir que je pensais que ça allait vite m'agacer les queues, et en fait, c'était très plaisant.
Parce que du coup,
je discutais avec les gens, forcément des films, ou soit je me reposais, soit je prenais un peu de la lumière, aussi de la vitamine, tout ça.
Ouais, bien sûr.
Soit je me protégeais du soleil aussi. Mais je n'ai pas vu le temps passer, en fait, malgré des files d'attente de 2 heures qui parfois étaient une attente qui pouvait être vaine. Mais
parce que du coup, tu arrives et puis là, on te dit, bah non, oui, il n'y a plus de place.
C'est pas pour vous. En fait, il y a des priorités dans les files. Donc la presse et les invités. En fait, ça dépend du type de badge qu'on a. Et ce que je trouve malheureux, c'est qu'en dernier cas, ce sont les cinéphiles qui achètent des badges cinéphiles, qui se trouvent un peu lésés, qui se trouvent dernier de la file, quoi.
Oui, parce que c'est pas fait vraiment que pour les cinéphiles, Cannes. Disons que les critiques de cinéma sont censés être cinéphiles, mais ils font quand même, c'est leur boulot de regarder des films. Mmh. Et puis après, il y a des invités, il y a des gens.
Il y a beaucoup de monde. En fait, en feuilletant les magazines, là, les films français ou autres, je me rends compte que c'est un autre Cannes que j'ai vécu. Bon, bien que j'étais à l'intérieur du système, la montée des marches, tous ces personnages-là que j'ai pas vus, c'est étrange d'être dans un. Comment dans un autre processus, quoi.
Ouais, parce qu'il y a le Cannes, il y a le voilà,
il y a le Cannes People que l'on traverse quand on va d'une salle à l'autre, et il y a le Cannes des cinéphiles, enfin des gens qui vont voir des films, des critiques et des, donc on se croise, s'entrecroise, ouais, ça ouais. C'est pas mal. Il laisse quand même la possibilité de croiser Nicole Kidman qui vous fait un clin d'œil.
Quand même.
Après coup, je me demande si elle ne pensait pas que j'étais un terroriste, parce que finalement, elle n'est pas venue à la remise des prix.
J'ai vu ça après, je sais pas, je me suis dit, ah bon, mais Christophe m'a dit qu'il l'avait croisée. Alors, elle était là, elle n'était pas là, c'était son hologramme. Non.
Parce qu'elle était bien, bien entourée de militaires et autres.
Ils avaient peur pour la sécurité de Nicole Kidman,
c'est ça, en fait, ouais. J'étais dans le couloir de... Bon, ça, notre badge donne accès à l'entrée des artistes, c'est pas mal. En fait, c'est un raccourci. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la machine à Orange Pressé qui, vraiment, sauve la vie aussi
des festivaliers.
Des festivaliers, oui.
C'est gratuit aussi, les Orange Pressé ?
Ça, par contre, bon, ça va, c'est pas très cher.
C'est pas très cher.
Ça coûte 1,50€, mais 3 Orange Pressé, ça...
Ça te sauve un peu, avec 3 cafés corsés et 3 Orange Pressé, tu peux tenir la journée.
Mais par contre, quand un invité... Quand un artiste passe dans ce couloir, 3 militaires en fait prennent la largeur du couloir et vous poussent, vous acculent jusqu'à même la sortie.
Donc là, on prend pas de risque à Cannes, quoi. Non.
C'est ça.
Les
fouilles étaient très très poussées aussi cette année, avec 3 niveaux de sécurité, fouilles au corps, n'importe quel objet, des clés. Il fallait à chaque fois.
Prendre l'avion, quoi.
Poches, quoi.
Ouais. À chaque fois, chaque entrée de salle, c'était je prends l'avion.
Ouais. Et je voudrais plaindre ces personnels là de fouille, parce que bon, j'étais un peu malade quand même, et j'avais des mouchoirs un petit peu englués, donc je suis vraiment désolé pour vous, mais messieurs.
C'est pas un métier facile. Tu m'as dit aussi qu'il y avait un métier que t'as redécouvert à Cannes, c'est les ouvreuses, parce que il y a des salles immenses et que on a vraiment besoin d'être placé.
Oui, on a besoin d'être placé. On est compté déjà, donc au passage au guichet. On
avec
est
bipé, la petite machine, tic,
c'est
tic,
ça.
tic.
C'est un bip. Et en fonction de ça, en fait, ils sont très organisés. Soit on nous oriente vers le balcon, soit sur les bords. Non, c'est très bien fait. Et donc les ouvreuses, oui, sont de retour et pour le meilleur. C'est des naïades, c'est très
gentil. Sont que des femmes. Il n'y a pas des ouvreurs.
Il y a des ouvreurs, des beaux mannequins. Je ne sais pas s'il y a un comité de sélection, mais ce sont des très beaux gens et très gentils qui ont été honorés d'ailleurs, notamment à la remise des prix d'un certain regard.
Oui, une ovation pour les ouvreurs.
Justifié parce qu'ils étaient vraiment très sympathiques.
Et cette histoire de dress code, est-ce qu'il faut vraiment être habillé en tenue de soirée pour suivre pour pouvoir accéder aux salles de cinéma?
Alors, en fait, donc il y a la montée des marches qui se déroule plus à la séance de 21h. Donc la montée des marches commence pratiquement 2 heures avant. Sur le billet d'invitation, c'est indiqué une tenue de soirée exigée, en fait, costume exigé.
Costume.
Donc, en fait, lors de l'accréditation, on a la possibilité de choisir les films qu'on désire. Donc, sur la sélection officielle, on a droit à un film par jour.
Bon, donc, une montée des marches par jour.
Une montée des marches, si l'on veut, par jour. Donc, moi, forcément, je n'ai pas nécessairement choisi
pas pris
ce créneau-là.
Option.
J'ai plutôt pris très tôt le matin ou plus tard le soir, 22h30. Donc j'ai eu 2 montées des marches malgré moi à 22h30 et sur l'invitation c'était indiqué tenue correcte exigée, c'est-à-dire que il n'était pas nécessaire de porter le nœud papillon ni les chaussures de soirée. Malgré cela, la deuxième soirée, en fait, j'ai été retenu par les vigiles, comme quoi je n'avais pas la tenue appropriée.
Qu'est-ce qui allait pas ?
Je n'avais pas la veste noire, alors que censément,
tu pouvais monter
elle
n'était
pas nécessaire. Ouais. Et donc on m'a dit qu'il fallait que je fasse un petit effort pour m'habiller. Et grâce à mes acolytes, j'ai pu accéder à ma soirée. On m'a prêté une veste de soirée un peu petite. Il fallait pas que je bouge trop les bras pour ne pas la craquer sur la montée des marches.
Et ça suffisait, quoi.
Et ça suffisait. J'ai été un peu, justement, par rapport aux Converse. On m'a dit que ça ne se faisait pas de porter des Converse. Donc, merci Joachim Phoenix, lors de la remise des prix, d'avoir porté des Converse.
Ça va faciliter la vie des festivaliers l'an prochain, quoi. Mais toi, le problème, c'est que tu les as portés avant lui.
Ouais, et j'étais un peu raillé par tout le monde, parce que le Converse, c'était il y a 20 ans. Mais bon. Moi, j'aime bien être hors de la mode.
Mais en plus, je peux raconter cette anecdote. C'est que tu es même allé t'acheter des Converses via le bon coin, parce qu'il ne faut pas pousser. Mais spécialement pour Cannes.
Spécialement pour Cannes.
En te disant, il me faut des belles paires de pompes. mais juste, c'était des Converses, quoi.
10 euros au McDonald's, sur le parking du McDonald's, l'Oraguet, l'Onaguet.
De l'Onaguet. Toi, t'es prêt à tout pour aller à Cannes, quand même. Hein. Alors, on va un petit peu évoquer avec toi les films qui t'ont marqué. Et puis, on va commencer par un petit peu évacuer, comme ça sera fait, ces films-là qui ont eu des prix. Et on va écouter pour cela le palmarès, un petit montage pendant la remise des prix. C'est Pedro Almodovar qu'on entend. Donc, si vous ne comprenez pas tous les noms des films, on les redira après, parce que forcément, il a un anglais un peu approximatif comme moi. Et un grec aussi pas terrible. On y va, on écoute.
Nous avons choisi de donner la caméra d'or à un film audacieux, le portrait d'une femme libre, drôle, forte, à une réalisatrice qui s'appelle Léonore Serrail pour son film Jeune femme.
Destinée Fondation, envoyons un message qui est Qu'un film doit raconter une belle histoire, mais il faut également encourager les films audacieux, risqués et hors normes. Pour le premier prix,
à Kato, réalisé par Teppo Aivaksinen.
Voici, nous avons notre première surprise. Le jury a décidé que pour cette catégorie, nous avons en fait deux lauréats.
So, le prix de le scénario est attribué à Yorgos Lanthimos et Evgenis Pilipov pour The Killing of a Sacred Deer. Yeah.
Je voudrais remercier Thierry,
Pascal Cousteau,
Thierry Frémaux, Pascal Cousteau, c'est lui qui a rendu ce film possible, Jamison, la productrice, et surtout Joaquin Phoenix, qui a fait de ce film ce qu'il est.
Merci à mon co-scénariste et à tous ceux qui ont rendu ce film possible. Nous ne serions pas ici sans eux. Merci. J'ai essayé de répéter son nom.
Merci beaucoup.
Je voudrais vraiment remercier les membres du jury et surtout un qui s'appelle Will Smith. En fait, il existe vraiment.
Le prix d'interprétation féminine est attribué à Diane Kruger. Le prix d'interprétation masculin est attribué à Joaquin Phoenix.
Wow, thank you so much.
Je ne peux dire que merci. Ce prix est tout à fait inattendu.
Oui,
voyez, mes chaussures ne sont pas de circonstances.
Le prix de la mise en scène est attribué à Sofia Coppola.
I am not Sofia Coppola. I start again.
Le Grand Prix est attribué à 120 beats per minute by Robin Castillo.
Merci à tous.
Je tiens à dire que je n'ai pas fait ce film seul. J'ai fait ce film avec toute une série d'acteurs, de techniciens, des producteurs, des financeurs, des gens qui m'ont soutenu. Et que je suis heureux que ça ait été une aventure aussi collective pour rappeler une histoire qui l'a été tout autant. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs. Et ça a été un moment d'émotion très très fort, ce festival, pour moi.
Et la Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square.
Voilà, sous les flonflons et les violons, on a entendu ce palmarès. Alors, on peut déjà tout de suite évacuer 120 BPM parce que c'est un film que tu n'as pas vu. Ouais. Mais il y avait quand même sensation, quoi. Dès qu'il est passé, dès les premières séances à Cannes, film qui a fait beaucoup parler de lui. Tu le sentais ça dans les files d'attente, justement, ouais. On en parlait.
Justement, ouais, je sentais. Et justement, je disais, en général, quand on parle trop des films, que tout le monde est unanime, il n'a rien. C'est ce qui arrive. Enfin, il n'a pas rien eu. Il a eu le Grand Prix du jury.
Ouais.
Le Grand Prix du jury qui est donc attribué par le président du jury, en fait. C'est son prix à lui. C'est Almodovar
c'est
qui
le prix
a
de,
choisi
le,
son abattement.
De, d'accord.
Cela dit, moi, c'était The Square pour lequel je n'ai pas arrêté de batailler toute la semaine avec des gens dans la foule pour lui vanter les mérites qu'il mérite, je pense.
Parce que si le film a eu la Palme d'Or, il a quand même été assez controversé, déjà dans la presse, et puis apparemment aussi dans le public. Alors, toi, tu connaissais des exploitants dans la salle, dans le festival qui est donc entre la presse et le public, on peut dire que on a entendu un film très nihiliste avec un réalisateur qui se place un peu au-dessus des gens. On l'a associé, on a dit que c'était un peu comme un héritier de Haneke qui présentait lui aussi un film à Cannes. En disant, il y a vraiment une tendance, on a aussi relié son film The Square au film du grec Yorgos, voilà, Lanthimos, en disant c'est des films sombres, pessimistes, un peu donneurs de leçons, presque comme si c'était une souffrance pour la presse d'assister à ces projections, que les réalisateurs ne voulaient pas du bien à leur public. Alors toi, tu as aimé The Square? Et est-ce que tu as aimé aussi le film Le Prix du Scénario, donc La Mise à Mort du Cerf Sacré de Yorgos Lanthimos?
Alors, je m'octroie un deuxième visionnage, quoi. Parce que j'étais pas conquis du tout. J'étais pas conquis du tout, en fait, à la vue de ce film, mais j'étais pas forcément dans un super état non plus. Je crois que j'avais pas pris assez de café, donc je faisais encore du rock metal pendant la séance. par contre, oui, j'ai dans les files d'attente, j'ai discuté avec des gens qui. Enfin, c'est pareil pour tous les films. Il y a toujours des avis partagés. Il y a des gens qui le défendaient.
Qui le défendaient fortement.
Moi, il y a des choses qui m'ont dérangé dedans, dans le dispositif, ces choix. C'est pour ça que j'aimerais bien le voir une seconde fois. Après, déjà auparavant, je voulais revoir et Canine et The Lobster. Pour avoir un avis plus tranché. Parce que c'est bien ça aussi quand même d'avoir. Des bases à côté pour mieux juger. Comme The Square, par exemple, de revoir Snow Therapy, ou bien Play, ou Happy Sweden. Je pense que c'est important pour mieux mesurer l'ampleur du film, parce que pour moi, c'est quand même un grand film. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux en parler un peu.
Bien sûr, on t'écoute. Si tu peux juste te rapprocher un tout petit peu du micro, bouge le micro, vas-y. Truc interdit. Je fais le, tu t'en fous, t'es un punk, toi, tu portes des Converse à Cannes. On t'écoute, vas-y. Ouais.
Donc alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, il n'y a pas de date de sortie. Mais moi, j'étais un peu estomaqué dans la salle en voyant ce film. Enfin, je jubilais sur certaines scènes. Je trouve qu'il y a une scène d'anthologie, même pas qu'une, il y en a plusieurs qui sont vraiment très très fortes. Je regardais en même temps le public et l'écran et le public. Dans cette scène, j'avais l'impression de voir un miroir, en fait, parce que c'est un peu ce qu'il représente aussi. Je ne vais pas en dire plus sur ce que c'est, mais en tout cas, c'était très fort. Je suis sorti avec des grands yeux écarquillés. Je regardais partout autour de moi. Les gens ont été mitigés. Ça aurait pu durer 1h30. C'est un film qui dure 2h20 quand même. Bon, j'ai quand même croisé un Américain qui était « Yeah, this is amazing !» Et moi, j'ai là « Yeah, yeah, yeah !» Bon, The Square, en fait, c'est l'histoire d'un conservateur de musée qui prépare une expo qui s'intitule The Square. C'est une installation qui incite le spectateur à l'altruisme et au devoir à l'égard de leur prochain. C'est un peu la base du film. Le réalisateur, donc, Osloon, a déjà fait une exposition, il y a 2 ans, en 2015, au Valadrom Museum, en Suède, sur ce thème-là de The Square, avec une règle d'or qui est « Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse ». Donc ça lance un peu Et je pense que les spectateurs, en ayant ça en tête au début du film, auraient peut-être une autre approche
de
l'œuvre.
Ouais. Il est plasticien aussi, également, réalisateur et plasticien, ou alors en fait il était juste commissaire d'exposition sur cette exposition.
Ils étaient à deux en fait à monter cette expo. Ouais. Il est plasticien, il s'est non, là-bas je crois qu'il fait des films. Il est passionné de ski. Il faisait des films de ski il y a encore 10 ans à Oslund.
Ok.
Mais en fait il a été avec son camarade, comment il s'appelle déjà, Cal Bowman, oui. Cal Bowman, qui est un producteur, un enseignant de cinéma, qui a notamment travaillé avec Bo Widenberg et Roy Anderson. C'est pas rien.
Mm-hmm. Chanson du 12e étage, ou ce genre de film, je crois.
Nous les vivants, oui. Ou Swedish Love Story, magnifique film d'ailleurs. Donc c'est à deux qu'ils ont monté cette expo en 2015 et donc il a repris les bases de cette exposition pour en faire un film.
Déjà le principe est assez étonnant, on peut dire.
C'est assez étonnant parce que en fait cette exposition a fonctionné un peu comme un virus puisqu'il a reproduit en fait ce carré dans plusieurs villes pour faire accéder aux gens à ces idées-là d'altruisme et de devoir par rapport aux autres, quoi. Voilà. Concernant le film, en fait, donc ce conservateur-là va vivre une crise existentielle et des réactions contradictoires par rapport à la proposition de cette exposition qui est The Square. Comment dire, Oslund en fait s'est inspiré à la base aussi d'un fait qui s'est déroulé en Suède en 2008. Des quartiers en fait qui se sont fermés et où seuls les propriétaires y ont accès. Ce qui a...
Comme des résidences privées, sécurisées.
Comme des résidences privées, En fait, il s'est inspiré de ça.
Donc, l'idée du huis clos aussi, assez fort.
L'idée du huis clos, ouais. Ouais. Et donc, ça a forcé l'individualisme. Alors que la Suède, c'est un des pays quand même les plus égalitaires.
Dans sa constitution, tu veux dire, dans son... égalitaire, ouais, quelque chose de revendiqué dans la politique.
Au niveau humain, ouais. Donc ça.
Donc en fait, ça marche pas si bien que ça.
Ça marche pas si bien que ça. C'est une crise qui pousse un peu les gens à se méfier et à se détourner de la société. Et ce qui fait que les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes, quoi.
Et le spectateur, du coup, du film, est lui aussi enfermé dans ce square? Ce square, il existe. Enfin, je veux dire, le film, il a. Parce que j'ai juste vu quelques images, moi, du film, avec des gens autour d'une table.
Ça, c'est.
Il faudrait pas la voir, cette image.
C'est une scène d'anthologie.
On est en huis clos comme ça pendant tout le film, ou non? Il y a des scènes d'extérieur ou...
En fait, The Square, il est à l'extérieur. En fait, c'est sur le parvis du muséum que le square a été créé à base de néons. Donc c'est un peu là aussi sous les pavés, c'est les pavés qu'on démonte pour y placer des tubes néons. Après, concernant l'art contemporain, on peut y voir des références, je sais pas, Marcial Reiss par exemple. Le film évoque plein de thèmes, c'est très riche. On peut s'y perdre. Des gens m'ont dit qu'au bout d'une heure et demie, ils s'ennuyaient. Moi, c'est là qu'il s'est construit, en fait, véritablement. Jusqu'à une heure du film, je me disais, mais que fait ce film en compétition?
Quand même.
C'est étonnant.
Ouais, d'accord. Donc, en fait, il n'a pas emporté ton... Enfin, ça prend du temps, quoi. Ouais.
Tout s'est mis en place comme des cubes qui peuvent se remettre sur le pavé, quelque part. Et Ruben Östlund dit « Pour moi, l'équation est simple. Si on fait preuve de confiance en l'autre, on gagne de la bienveillance en retour. Mais le manque de confiance est une attitude qui justifie qu'on exploite ceux qui agissent imprudemment. » Voilà, c'est un peu le thème du film. Et voilà, donc ce projet-là, The Square, aborde la confiance de notre société, explore notre besoin de réexaminer nos valeurs sociales actuelles. C'est pourquoi je pense qu'il est très important ce film, bien que les gens puisse penser que c'est un film mineur et malin, très malin.
Et aussi un peu donneur de leçons. Quand tu dis ça, on a l'impression. Enfin, moi, je me méfie là quand tu me lis cette phrase du réalisateur. Je me dis, mais moi, j'ai pas envie que tu m'expliques la vie, quoi. Ça va,
On peut penser ça effectivement pendant le film, donneur de leçons, mais moi, c'est pas l'impression que j'ai eue en fait jusque la fin. Parce que je pense que chacun y trouve aussi ce qu'il veut dedans. Il y a certains éléments, oui, qui peuvent être perçus comme des leçons à prendre, mais non. C'est beaucoup de plaisir parce qu'il y a de l'humour en plus. C'est vrai qu'on retrouve un peu le cinéma de Ulrich Seidel ou Haneke, c'est un peu, il est entre les deux.
Mais il reste mais l'humour en plus.
Et l'humour est quoi quand même prépondérant dans ce film. J'avais des Indiens à côté de moi qui ne sont pas restés 20 minutes, ils n'arrêtaient pas de dire « Who is this guy ?» Concernant les acteurs, parce qu'ils ne reconnaissaient aucun acteur déjà. Et si, il y avait quand même David West, qui est très connu pour The Wire.
C'était un plaisir de le retrouver.
C'était un plaisir de le retrouver là dans son rôle d'un artiste qui va se faire.
On dit pas.
Qui va se faire, on dit pas.
On va faire une petite pause avec notre ami Joachim Phoenix qui avait fait un projet rap. On ne sait pas trop. Il y avait un faux doc ou un vrai doc sur lui. Oui. Je me rappelle plus du titre du documentaire, mais je sais juste qu'il chantait, puisqu'il donc Joachim Phoenix a annoncé qu'il arrêtait sa carrière d'acteur pour embrasser celle de rappeur. Et il a fait des petites démos et ça circule sur le net. Alors juste pour le plaisir de l'homme qui porte des Converse, comme si c'était un événement quand même. C'est pas comme si on en côtoyait pas tous les jours 150 millions, mais c'est Joachim Phoenix qui rappe. On écoute. I heard the call, siren sounding off, feeling guilty cause my day was spent fucking off. History's perverted me, words don't really comfort me, you become the epitome of a fucking... I made it here despite the efforts of a few, so now it's time to simply say fuck you. Can I get a refund? What? For this life of sin, let me try again, let me kiss this man. I want money back, I know I can do better. If the devil let me off, I swear to God I'm ready. We was dealt with hand by the man upstairs, the one they say that got some plan. And we never questioned, assuming he'd bless us. But every day started hard just in case he tests us. Give my own. Chance that we met, your scent electric overwhelming all my senses. 19 years old, always reacquainted up north with Goose who we filmed with. I thought I lost the taste. Can I get a refund? What? What it's like for sin? Voilà, bah ça se finit comme ça, tiens. C'était donc Joachim Phoenix quand il ne tourne pas et qui fait aussi des chansons. Et puis je voulais te faire écouter un extrait, l'extrait d'un film qui n'a pas eu de prix, mais que tu as beaucoup aimé. Second long métrage, Vie violente, on écoute.
Putain, mais ce que tu comprends pas, c'est que tu fais appel à des entreprises étrangères. Tu comprends ça ou pas?
Mais franchement, je m'en fiche d'où elles viennent. C'est pas leur nom que je regarde, non, mais la façon dont elles travaillent.
Tu t'en fiches, hein?
Je m'en fiche.
Tu t'en fiches. Tu veux pas prendre de Corse alors? Tu veux prendre des Corses ou pas? Dis-moi. Tu veux prendre des Corses ou pas? Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. À la fin du mois, il y a une enveloppe. C'est comme ça que ça se passe ici. Comme ça, son cousin, il aura de l'argent. Tu le comprends ça ou pas?
Ah, c'est pas sérieux, franchement.
Chaque décision que tu prends implique des conséquences. Ça, c'est la vie.
On rétablit la balance.
Ce que je veux vous dire, les gars, c'est que je paye déjà. Et il y a des plus gros que vous. Faut tout de même pas que j'ai pu entreprendre tout ça tout seul, sans la moindre protection. Je suis pas un idiot quand même.
La preuve, ils sont où là?
Mais vous savez pas qui ils sont.
Ils sont où là?
Courez pas qui vous avez affaire.
Bah appelle-les, allez, appelle-les, allez, appelle. Oh. Appelle-les. Alors c'est ce que tu vas dire à ta protecteur, qu'on n'a plus besoin d'eux. Tu comprends pas?
Désormais, les protecteurs, c'est nous. Dis-leur que nous, c'est les intérêts du peuple qu'on défend. Tu veux des entreprises étrangères? T'as le droit. On va pas te l'interdire. On n'est pas en Corée du Nord.
Quand il te parle.
Mais il y a une taxe pour ça et c'est normal. Avec cette taxe, on va faire des choses utiles. Comme former son cousin, par exemple. S'il manque un savoir-faire, qu'il n'a pas, ça va le servir à lui le donner.
Mon cousin, il est bon, c'est une flèche.
T'es lucide, prévoyant. Donc ça va plus t'échapper que si c'était une zone de combat.
Ah, dis-toi que tu participes à l'effort de guerre. Tu devrais être heureux.
Si vous faites ça, je coule.
On bat les couilles que tu coules, je te le dis. Arrête, dans un mois, on ne passe et tu vas payer, je te garantis.
Voilà, un extrait de Vie violente. Alors, des mafieux humanistes. C'est étrange, cet extrait.
J'adore l'accent.
Ouais. C'est pour ça que tu aimes le film?
C'est pour ça. Moi, d'accord. Des détails comme ça. Surtout que j'ai été confronté il y a quelques semaines un peu à cet accent. J'ai postulé en Corse pour un poste. Et puis, la personne m'a dit en face, Monsieur Asquette, est-ce que vous êtes prêt à quitter votre femme pour venir en Corse? Voilà.
Il n'est jamais revenu, il n'est jamais retourné. C'est, tu peux nous raconter un peu,
Je veux pas raconter le film, d'ailleurs, non. Ça va être très mal être raconté, mais.
Pas nous raconter le film, mais qu'est-ce que tu sais sur ce réalisateur et pourquoi ce film t'a plu?
Alors, ce film est passé donc à la Semaine de la Critique, qui est tout au bout de la Croisette. C'est un lieu très convivial, la salle est... La Semaine de la Critique, en fait, est orchestrée par Charles Tesson.
Journaliste, critique, analyste de cinéma, qui était ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, je crois, collabore aujourd'hui à plusieurs revues et puis qui fait de l'analyse, qui se déplace dans les salles et
professeur
qui
la féministe,
voilà et... prof à la féministe et qui dirige cette Semaine de la Critique et donc c'est un jury composé de critiques de films, une sélection pour un jury de critiques, c'est ça? Pour ce d'où le nom, la Semaine de la Critique, non?
Ah bon?
Je sais pas, moi non plus. On cherchera.
Oui, ouais, ouais.
On se renseignera. Et donc, ouais.
En fait, comme dans les autres salles aussi, il y a toujours la présentation du film avec les acteurs et l'équipe du film. Donc pour ce film, il y avait. La scène était emplie de Corses, tous avec des.
Avec des cagoules? Non!
C'était impressionnant, en tout cas.
Ouais.
C'était fort. Le réalisateur, c'était. On sentait qu'il y avait une tension, la même qu'on peut sentir dans le film, dans son cinéma, dans ce qu'il retranscrit. C'est un cinéma vraiment singulier. Je crois que Peretti, déjà dans Les Apaches, avait posé les, comme dirait Charles Tesson, les fondations de son cinéma. Et que là, il est en train vraiment de cimenter. Cela.
Alors lui,
fait référence à l'histoire corse,
voilà.
En fait.
Il filme, il s'en tient à son microcosme, enfin, qui peut devenir aussi macrocosme, enfin, du coup, si tu prends du recul, bien sûr, mais il filme la société corse, il filme la Corse, en Corse, avec des Corses.
Avec des Corses, la transmission, la jeunesse corse, les clans, et. Il fait notamment référence, forcément, un peu à. À l'Italie, la Sicile, mais bon, c'est la Corse et on le sent bien, c'est fort, c'est très fort, c'est unique et je suis très déçu qu'il ait pas eu de prix ce film. Les acteurs, ils sont authentiques, ce sont de vrais mafieux. Non, je ne sais pas en fait.
Non, mais en tout cas, on a l'impression de découvrir, d'être plongé dans quelque chose qui semble réaliste, quoi.
C'est très réaliste, en fait. C'est ce qui peut après rebuter un peu les gens. S'ils prennent ce film au premier degré, ça peut être très brut.
On peut penser que c'est une apologie de la violence ou pas, quand même.
On peut penser que c'est une apologie de la violence, ce qui est tout autre chose, en fait. C'est vraiment une approche par touche de ce. De ce microcosme, effectivement, ces clans qui s'entretuent, c'est une histoire de pouvoir.
En fait, c'est ce qui est. J'imagine que ce qui doit. C'est intriguant quand même, la Corse, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui. Voilà, que c'est presque un territoire qui a ses propres règles, et c'est quand même aussi ce que, manifestement, ce qu'il filme. Et on n'y a pas tellement accès normalement à cet univers-là quand on n'est pas corse.
C'est ça. Mmh. Il nous plonge dans les méandres de ces relations
complexes, ce mode de fonctionnement, un fonctionnement un peu parallèle.
Tout en n'oublions pas de retracer l'histoire, de la base de ces mouvements, en fait, de cette Corse est si chère et unique et qu'il faut protéger. Et donc, comment la protéger
C'est intéressant.
Ces créations de clans qui se font, se défont, ces règlements de compte. Ouais, c'est très fort.
Assez singulier en tout cas, puisque je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs français qui sont originaires de Corse ou qui ont filmé la Corse? Je n'ai pas d'exemple du tout en tête. Il faudrait que je regarde. Je ne sais pas si toi tu en vois.
Je ne sais pas non plus.
C'est en parlant de singularité, puis aussi de peut-être de parfois d'erreurs de compréhension, en tout cas, où le film de Bruno Dumont qui se penche sur la jeunesse de Jeanne d'Arc, lui aussi a pu créer certaines polémiques. Enfin, toi, en tout cas, tu me disais que tu avais discuté avec une programmatrice qui lui reprochait d'avoir utilisé cette figure de Jeanne d'Arc, et surtout qu'il est allé puiser dans un texte de Charles Péguy, et donc on s'interrogeait un peu sur qui était ce Charles Péguy. On va écouter la bande-annonce et on en parle tout de suite. Alors donc Bruno Dumont, dans une sorte de comédie musicale, enfin hard rock, mais autour de Jeanne d'Arc. Et ouais, c'est comme ça.
Et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés. Tous les efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Toi qui nous rappelles quelqu'un pour tuer la guerre, nous sommes comme les enfants qu'on s'amuse en bas, dans les prés. Faire des digues et de lever avec de la terre, avec la boue de la meuse. Les Anglais tiennent tant serré le monde aussi sur l'échelle. Et c'est pour cela que tu veux voir Madame Gervaise ?
Il est là comme au premier jour, éternellement. Il est là parmi nous, autant qu'au premier jour.
Alors, Madame Gervaise, qui faut-il donc sauver? Comment faut-il sauver?
Vas-y, je t'en prie. Tu me dis s'il faut qu'on fasse un peu.
Au revoir, Jeannette.
Bonjour, Jeannette.
Bonjour, mon oncle. Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison monsieur le duc d'Orléans, je ferai sacrer monsieur le dauphin à Reims dans la belle cathédrale.
T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu?
Non, mon oncle, il m'a envoyé monsieur Saint-Michel, madame Sainte-Catherine et madame Sainte-Marguerite pour me parler.
Vous avez donc laissé les bandes ravageuses enflammer nos maisons.
On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où est-ce qu'on se trouve quand on entend cette bande-annonce. Et le film est aussi fou.
Aussi fou.
Ouais. Ouais. Et tu conseilles?
Du métal au Moyen-Âge. Ah oui, bien sûr. Et comme le disait une spectatrice, on peut très bien fermer les yeux, faire un petit somme et être dans un concert métal.
Sur des textes de Péguy, ouais, il fallait le faire.
Ouais. En fait, j'y suis allé sans. J'aime bien ne pas savoir qu'est-ce que je vais voir. Enfin, je savais que c'était Bruno Dumont sur Jeanne, mais.
Sur Jeanne d'Arc.
Ouais, mais je savais pas que c'était un texte de Charles Péguy et j'aurais bien aimé savoir avant. Avant le...
Ouais, donc peut-être un petit public un peu averti, alors tu conseillerais. On peut, si on le voit comme ça, en tout cas, tu me disais que à Cannes c'était un peu difficile parce que il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule et Bruno Dumont joue un peu à étirer les dialogues, les scènes et tout d'un coup prof, des gros matraquages de métal qui arrivent.
C'est très présent, ça doit représenter 80% du film, le métal.
Ah oui, quand même.
Ouais. C'est très bien, ce dispositif. Après, le contenu, donc le texte Charles Péguy, faudrait analyser ça plus profondément.
Ou pas, parce que je crois Bruno Dumont, il, même si c'est quelqu'un qui a une formation de philosophe, c'est un intellectuel, il se défend un peu de trop d'analyse de ses films. Il y a aussi une envie que ce soit pris comme...
Il est toujours dans la provocation.
Ouais.
Et comme je disais, le potentiel humoristique qu'il a, en fait, Bruno Dumont pourrait très bien faire des films comiques du début à la fin où le spectateur est hilar, mais c'est pas son choix. Il préfère illustrer d'autres choses. En tous les cas, on peut y trouver pas mal d'humour dans ce film, malgré les longueurs des textes qui sont chantés. Et on y rigole beaucoup. Ouais. Après, bon, les spectateurs sont très, très, très partagés quand même. C'est vrai.
Est-ce que les gens iront voir ce film en salle? Est-ce que...
J'espère, parce que ça vaut vraiment le coup, ouais. Cette performance artistique.
Et puis, c'est étonnant de s'emparer de cette figure de Jeanne d'Arc. Ça peut être intéressant d'écouter ce qu'il dit. Mais je crois que tu avais ramené un son de pris dans la salle, non? Où Bruno Dumont parle. On aura l'occasion de le diffuser ici dans l'émission au moment de la sortie du film. Et on aura peut-être un peu plus d'éléments sur le choix de cette figure. Oui, je t'écoute.
C'est assez minimaliste par rapport à ce qu'il fait d'habitude au niveau de la composition de l'image et des plans. Là, on reste sur... je pense que c'est plus le contenu que...
Ouais, c'est assez peu mise en scène. Ou en tout cas, pas trop d'effets de caméra ou...
Ouais, les compositions sont moindres. Enfin, on reste dans le sable. Il y a quelques espèces de nature morte d'un chemin. Mais après, ça représente un peu aussi cette époque-là, le Moyen-Âge. Ce dépouillement...
Puis ça évite d'avoir trop de budget de décor.
Oui, c'est ce qu'il a dit en fait, que une femme suggérait que c'était des paysages maritimes. Et en fait, il dit, il demandait s'il avait où il avait tourné ça. En fait, il dit, près de chez moi, en sortant de chez moi, comme tous mes films.
Ouais, pourquoi s'embêter? La puissance du cinéma, ça permet ça aussi.
Et donc on a eu l'honneur de le croiser dans la rue, dehors, avec ses actrices.
Qui sont de très jeunes filles.
Qu'on a du mal à imaginer dans aussi puissante qu'elles sont représentées dans ce film. De la façon dont il les représente. Notamment chantant sur une musique métal, avec une contre-plongée, c'est un sentiment de puissance de la Jeanne que croiser dans la rue Bruno Dumont avec elle, dont on pense que c'est peut-être ses filles, on ne sait pas, avec une petite voix très naturelle, c'est ça le cinéma aussi.
Oui. Et du coup, ça raconte aussi que Bruno Dumont ne se contente pas juste de poser sa caméra dans un élément naturel. Ce n'est pas un cinéaste naturaliste. Mais là, bien entendu, puisqu'il utilise la figure de Jeanne d'Arc, on se doute. Mais on a pu croire que Bruno Dumont faisait un peu comme du cinéma documentaire. Non, c'est très mis en scène et c'est très scénarisé.
Ah, c'est mis en scène par des couflets, déjà.
Voilà. Ah oui, en plus.
Ouais.
Voilà.
L'air de rien.
Et si on parle de mise en scène, on va consacrer les dernières minutes de cette émission à nous raconter un peu que le Cannes, c'est aussi une représentation, c'est des codes. Il faut comprendre un peu comment ça marche pour pouvoir accéder à certaines salles. Il faut, enfin voilà, comment on apprend à Cannes.
C'est ça, c'est comment on apprend. Moi, j'étais un novice et j'ai bien été épaulé. Merci à René qui m'a drivé pendant tous ces festivals. On s'est soutenu à voir un maximum de films.
Donc René, c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a ses habitudes à Cannes et qui t'a un peu épargner 10 ans de festival, qui t'a fait un petit résumé, quoi, une synthèse. Alors comment on se déplace, qu'est-ce qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'il faut éviter.
C'est ça, exactement. Ouais. Du coup, ça me soulageait un peu de tout ce travail, parce que finalement, dans ces propositions de films qui sont quand même assez gigantesques.
On peut voir combien de films par jour? Enfin, combien de propositions à la même heure, par exemple? Des fois, tu te retrouvais à choisir entre quoi? 5, 10, 20, 50 films?
À l'heure, ouais. 50 films par heure, donc par 8 heures, 400 films par jour.
On imagine un énorme multiplex avec 50 salles, on devient fou. Il vaut mieux être...
Non, en fait, il y a des lieux... Il y a la semaine de la critique, et tout au bout de la croisette, la quinzaine des réalisateurs, le palais du festival, avec ces deux salles principales, le théâtre, croisette, et la salle de Bussy. Et derrière, il y a une autre salle, qui est la salle des 60e. C'est la salle, en fait, où on peut récupérer, revoir, enfin, voir les films de la sélection officielle le lendemain à 14h. Ça, c'est, par exemple, un truc à savoir, qui n'est pas forcément dit dans les papiers.
Une séance de rattrapage.
Une séance de rattrapage, et c'est vraiment très bien, parce que sans invitation, on peut y aller. Il faut être accrédité quand même. Voilà, ce sont les principaux lieux. Il y a l'acide, là, qui est moindre.
Donc l'acide
salles.
Montre des films plus... Enfin, un autre cinéma qui est plus un cinéma de recherche et de création.
C'est ça, cinéma de recherche-création. Ce sont, pareil, un jury de cinéastes, de réalisateurs, en fait, qui choisissent parmi 300 films, en fait, en gros. Et on peut trouver de belles pépites.
C'est souvent près des films qu'on a la chance de pouvoir découvrir au Cratère.
Par exemple.
Ouais.
Qui est une salle
pas seulement, l'ABC en passe aussi, l'American Cosmographe certainement aussi, mais le Cratère donne une grande part de sa programmation à ces films-là. Et d'ailleurs, elle propose des visionnements pour des exploitants dans des journées où on peut regarder 5-6 films de l'acide quand on est costaud, comme toi.
Moi, je dors.
Tu dors aussi. De toute façon, il faut dormir un peu pendant les films. C'est ce que tu me disais qu'on apprenait aussi à récupérer malgré soi. Et puis après, on compose avec, parce qu'il y a toujours un moment où on pique un petit somme pendant les films.
C'est pour ça que je parlais de métal pendant les films, en fait. C'est le fait de baisser la tête, de relever la tête. Si on a des cheveux, ça fait plus un effet métal.
Comme un peu dans le train, quoi. Mais sauf que là, c'est dans la nuit, on nous voit pas. Mais... Sauf ton voisin d'à côté, peut-être. Ouais. Puis il y a ceux qui ronflent, mais.
J'arrive aussi dans les salles.
Bah oui.
Donc en fait, oui, ces salles principales proposent des films toute la journée, en revisionnage aussi, enfin, plusieurs séances du même film. Donc ça permet un peu de comme sur les festivals en général, quoi, de composer tout un programme. Quoi. Après, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est le palais, c'est un peu un vaisseau mère, cette bâtisse gigantesque.
Assez laide.
Ouais, c'est pas très, très beau, non. Mais c'est, moi, on dirait un vaisseau mère sur un océan avec, en fait, nous, accrédités, les gens accrédités vont retirer leur accréditation et on va retirer aussi un sac qu'on leur donne. C'est un sac à bandoulière qui, cette année, était de couleur bleu-orange. Ça a une signification, par exemple, pour les acheteurs-vendeurs de films, c'est bleu et bleu, un bleu différent. Mais ces sacs-là, portés par les gens, ça ressemble un peu à un port de pêche avec des bouées amarrées un peu partout. On les voit circuler comme ça.
C'est joli ce que tu racontes. Ça.
Ouais, je vois. Ouais. Et progressivement, au fil du festival, ça disparaît. Il y a de moins en moins de bouées, en fait.
Il y a de moins en moins de sacs. Et il y a de plus en plus de public lambda.
C'est ça.
Ouais.
Alors, ce festival, donc, qui c'est ce palais, il y a 5 étages, je crois. Il y a également des salles assez grandes, mais également des petites salles qui vont jusqu'à 10 spectateurs. Il y a 40 salles au marché du film pour des acheteurs, vendeurs de films. Alors je ne connaissais pas tout cet univers qui se déroule dans les sous-sols du palais. Ça s'appelle le marché du film, en fait. J'y avais accès, donc j'étais un peu en public lambda. Mais les enjeux de la planète cinéma...
Se passe aussi pendant Cannes. Ça veut dire que en fait, quand le film il est prêt, il faut, on le propose à des acheteurs. Souvent, il a une production dans le pays d'origine, et après, on propose à des acheteurs pour l'étranger. C'est ça, en fait.
C'est ça. C'est comme un vrai marché, un marché à légumes aussi. Il y a quelque chose d'un peu triste de savoir que produire un film, enfin réaliser un film, donc c'est considéré comme un produit dans ce lieu-là, quoi. C'est un produit qui est à vendre, et ce produit peut ne pas trouver d'acheteur. C'est-à-dire que un film qui peut être réalisé pendant des années peut ne pas trouver d'acheteur et rester en plan sans rien, sans débouché.
Sans spectateur, quoi.
Ouais. C'est triste.
Ouais. C'est une industrie, le cinéma.
C'est une industrie, je crois que ça représente à peu près... là, durant le festival, les échanges, ça représente à peu près 700 millions d'euros, je crois. Ça va, c'est pas les milliards, mais...
Bah, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal, oui.
Ouais, ouais. Plus, après, derrière la publicité, les achats de télévision, enfin
voilà,
bon...
Voilà, après, ça, c'est encore tout un autre... Et donc, en fait, ce marché, il y a des salles de visionnement de films. C'est-à-dire que les potentiels acheteurs demandent aux vendeurs, distributeurs, s'ils peuvent visionner ce film. Donc, dans ces 40 salles qui vont de 10 à 40 spectateurs, on peut voir ces films. C'est presque des projections privées en anglais. Et donc c'est impressionnant de savoir qu'il y a autant de salles de projection dans ce vaisseau amiral.
Dans ce vaisseau mère.
J'ai eu l'occasion de pénétrer un peu ses entrailles, par le biais de René encore, d'aller dans ces cabines de projection. Ces petites cabines, parce que les principales cabines de la sélection officielle des grandes salles ne sont pas accessibles. Il y a des niveaux de sécurité qui font que des gardiens... C'est tellement important, et les portes de la cabine de projection de la salle principale sont blindées.
Contre toute attaque.
Contre toute attaque.
Parce qu'on pourrait voler le fichier du film et le balancer sur l'Internet.
Par exemple.
Ouais.
C'est impressionnant.
C'est un trésor. Mais en même temps, tu racontes à la fois ce côté quand même une grosse industrie, et aussi toi, en tant que cinéphile, tu as pris t'as eu accès à énormément de films, et tu as vu quand même beaucoup de choses qui t'ont plu, qui t'ont remué, qui t'ont donc ça reste quand même un lieu de découverte de cinéma. C'est un vrai lieu de cinéma.
Ah oui, moi j'y allais à reculons, mais j'ai beaucoup aimé, en fait.
Ouais.
Cette faune, c'est un peu Disneyland aussi, tout cet espace extérieur avec tous ces gens qui se mélangent.
Tu as vu combien de films, à peu près? T'as fait la liste?
Non, pas du tout.
Non.
Ça reste...
Tu dirais quoi?
Une moyenne de 4 films minimum par jour. Donc,
pendant 10 jours? 12?
Oui, ouais.
Bon. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces films-là, maintenant? Ils existent encore, j'imagine, parce que c'est pas si loin.
Ouais.
Ils te traversent parfois, comme ça, paf.
Exactement. C'est un peu comme un monteur de film qui va rester sur... Enfin, c'est un peu différent, mais un moteur de film qui reste sur des mêmes images et qui va sortir dehors, va vivre une scène en disant « j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça », alors que c'est ce qu'il aura vu lors de son montage. Mm-hmm. Ça, on confond un peu la réalité et la fiction à force d'être dans ces films-là. En tout cas, il y a quelque chose qui se structure dans le point de vue sur la durée du festival. Je crois que l'œil lance des flèches un peu sur des points durant les projections. On est plus intransigeant, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Hein. Même si on veut être tolérant, il y a des choses qui passent moins facilement. Mmh.
Mmh. Disons que des films programmés entre deux autres peuvent être desservis comparés à celui c'est d'avant ça. Ou celui d'après, ou inversement.
C'est toujours une compétition, ouais. À l'inverse de La Rochelle, où il n'y a pas de compétition, par exemple.
Donc tu vas aller te soigner à La Rochelle ensuite, ou ça va suffire pour...
Je ne vais pas avoir le temps, je crois, mais en tout cas, ça me plaît, cette idée de refaire des festivals à plein. Alors, je précise que je n'étais pas aux soirées et aux afters, ce qui est encore une autre vie à Cannes. Voilà, j'ai été...
Tu aurais vu moins de films, si tu étais...
J'aurais vu moins de films, mais j'aurais été moins concentré. Ouais. Là, j'ai essayé de mettre un peu mes peu d'arguments que je peux avoir pour pouvoir juger autant que je peux les films. Si on parle de juger et non pas de voyage, parce que c'est aussi des voyages.
Bien sûr. Et on t'avait invité quand tu étais revenu tout juste de Ciné 32 à Auch.
Alors je tiens à m'excuser d'ailleurs des propos que j'ai tenus sur Cannes, parce que...
Quand tu étais à Auch, ouais. Enfin, quand tu es venu à l'émission.
Je pense qu'on est tellement hors du réel à Cannes qu'on ne peut pas critiquer.
En tout cas, non, mais ce que tu nous racontes nous fait plutôt envie, surtout de savoir qu'on peut se débrouiller pour pas trop d'argent quand même. Peut-être, on n'a pas eu trop le temps. Là, l'émission touche à sa fin, il faut qu'on laisse le micro. Mais je te propose, de temps en temps, à l'occasion de films qui vont sortir dans l'actualité, de films de Cannes que tu auras vus, peut-être que tu reviennes nous en parler, même peut-être que tu les revois hors Cannes.
Mmh, c'est nécessaire, je pense.
Tu seras notre chroniqueur cannois de toute l'année de Cinématoc. C'est une proposition, tu peux pas dire non, on est en direct. Merci, merci beaucoup Christophe. Bonne continuation de cinéphile.
Cinéphile est un grand mot.
Ouais, ou d'amateur de cinéma. C'est bien ça, amateur de cinéma.
De profiteur de cinéma.
Allez, profiteur. Profitons bien.
C'est pour tout le monde, le cinéma.
La semaine prochaine, Cinématoc reviendra sur une journée d'études autour du documentariste Weizmann. D'ici là, restez à l'écoute de Canal Sud sur 92.2. Partez vous promener à la montagne. En tout cas, portez-vous bien. À la semaine prochaine.